Radio Kapi.
Oh, Kapi.
Le journal Billy Ivan Lutumba à la présentation.
Ce journal s'ouvre par ces tirés d'étonation tendus cet après-midi à Kaptondo, à quelques encablures de Kalembe dans le territoire de Walikale. Les premières informations renseignent que ce sont les rebelles du M23 qui sont aux prises avec les combattants Wazalendo. Vous suivrez aussi le point de vue de Léopold Kondaloko, professeur de droit à l'UNIKIN, concernant le débat autour des retouches de la Constitution. Pour lui, avec cette guerre dans la partie est de la RDC, il n'est point opportun de changer ou de réviser la Constitution. Docteur Bureima Amasambo, représentant de l'Organisation mondiale de la santé en RDC, donne assez d'informations sur le déroulement de la campagne de vaccination contre le Mpox au Nord et Sud Kivu. Il est invité de ce journal. Tous ensemble, nous découvrons dans quelques secondes ce qui se passe dans diverses provinces du pays. Et le tout, c'est sur Radio Okapi. Bienvenue et excellentes conditions d'écoute à toutes et à tous. Fidèles auditeurs, bonsoir à toutes et à tous. Dans le Nord Kivu, de nouveaux combats ont opposé en début d'après-midi ce vendredi les rebelles du M23 aux combattants VDP Wazalendo à Katobo dans la localité de Mulindwa. C'est dans les environs de Kalembe, en groupement Kisimba, territoire de Walikale. Alors qu'une accalmie s'observait dans la zone jusque ce matin, ces soudaines détonations d'armes lourdes et légères ont provoqué un autre mouvement des populations qui résistaient encore dans la zone. Rappelons que cette reprise des combats intervient deux jours après l'occupation par le M23-RDF de la localité stratégique de Kalembe et ses environs. Dans le Nord Kivu, une fois de plus à Goma, une structure de prise en charge sanitaire des déplacés du site de Boulengo bénéficie de 2,5 tonnes de médicaments dont du sénateur Papi Machozi, élu du Nord Kivu. La remise officielle est intervenue mercredi dans ce même site. L'assistant parlementaire de cet élu affirme que ce don répond à un besoin exprimé il y a une semaine environ par les responsables du DICIT et par le personnel de santé qui y interviennent. Dr Clovis Ekivalia, dans ses propos recueillis par Bernardin Nyangui.
Le vendredi, nous avons été ici dans le site de Boulengo pour la remise des clés d'une école construite sur ses fonds propres en faveur des enfants déplacés. Et lors de notre passage, les responsables du site et également les personnels de santé nous avaient fait une demande d'un besoin pressant qui était celui de l'approvisionnement en médicaments. C'est comme ça que nous n'avons pas tardé à faire recours à l'honorable sénateur et lui nous a dit qu'on devrait en urgence apporter un lot de médicaments ici dans le site de Boulengo. Voilà, j'ai ici une liste, c'est une trentaine de molécules, parmi lesquelles nous avons ceux qui soignent nos maladies courantes de la région, donc le paludisme, la fièvre typhoïde, et même d'autres médicaments, maladies qui touchent les enfants, les femmes. Donc ici, nous avons 2,5 tonnes de médicaments.
L'insécurité persistante dans la ville de Beni, marquée ces derniers temps par des cambriolages jamais armés, inquiète de plus en plus. Le dernier incident date s'est produit à Malépé, la nuit de mercredi à jeudi. Des hommes armés ont en effet braqué une maison en portant une moto et en tirant plusieurs coups de feu en l'air, ce qui a plongé la population dans la peur. La société civile Force Vive de la ville de Beni estime qu'il est temps que les autorités militaires prennent des mesures concrètes, surtout à l'approche de la fin d'année, période où le banditisme prend habituellement de l'ampleur. Pépin Kavota, son président, s'exprime au micro de Guylaine Kassassia.
La ville de Beni, depuis un certain temps, est en train de subir des coups et des contre-coups des hommes armés. La société civile avait annoncé avant que vers la fin de l'année, il y a toujours des cas de cambriolage, des cas de tuerie. Et nous pensions que les services auront le temps d'analyser et de prendre des mesures idoines afin d'arrêter la situation de la sécurité de la ville de Beni. Nous pensons qu'il y a des choses où il faut quand même que les autorités judiciaires puissent s'y atteler. On le dit toujours, il y a la responsabilité du commandant qui doit répondre des actes de ses troupes. La population ne doit pas être victime alors que nous avons des commandants. Il y a aussi cette petite problématique de la présence des militaires qui n'ont pas leurs unités à Beni. La fois passée à Malépé, la justice militaire est témoin. Elle a fait condamner des militaires ici qui prouvent que plusieurs des cas sont des militaires. Mais aussi, il y a aussi des bandits qui proviennent de la population civile. Je crois que nous devons, nous tous, avec les autorités, voir comment militer pour que ces éléments de l'ordre puissent quitter la ville et suivre leurs unités là où ils sont.
politique. En rapport avec le débat autour du changement ou de la révision de la Constitution, Léopold Kondan-Loko, professeur de droit à l'UNIKIN, pense que tant que la guerre de l'Est n'est pas encore complètement terminée, il n'y a pas d'opportunité de changer ou de réviser la Constitution. La révision, dit-il, exige la modification des quelques dispositions, tandis que le changement concerne la rédaction d'une nouvelle loi fondamentale, mais en tenant compte des réalités du moment. On écoute le professeur Léopold Kondan-Loko, joint par Jeff Ngoy.
Lorsqu'on parle de la révision, c'est-à-dire qu'il y a des dispositions qui ne cadrent plus avec leur réalité actuelle et qu'il faut les réviser pour les adapter aux réalités actuelles. Parce que la Constitution, c'est la loi fondamentale, c'est vrai, qui est rédigée toujours en tenant compte de réalités sociopolitiques du moment. Si les réalités ne collent plus, on est obligé de modifier certains articles de la Constitution. C'est pourquoi le constituant a prévu tout un chapitre de la révision constitutionnelle. La révision n'est définitive que si le projet, la proposition ou la pétition est approuvée par référendum. Alors que les changements de la Constitution, on ne révise pas, mais on rédige une nouvelle constitution qui doit tenir compte des aspirations populaires, du réalité de moment.
Nous allons continuer cette édition de journal sur Radio Okapi pour parler des conseillers communaux élus de la ville de Bukavu qui ont manifesté leur mécontentement hier jeudi devant le cabinet du gouverneur de province. À l'affiche de leurs revendications, le paiement des arriérés de 10 mois des émoluments, mais aussi la tenue des élections des bourgmestres, du conseil urbain et du maire de Bukavu par la CENI. Un mémo a été déposé au vice-gouverneur intérimaire. On écoute le porte-parole du caucus des conseillers communaux de Bukavu, Sami Magajou, dans cet extrait sélectionné par Jean Kassami.
Nous, conseillers communaux de la ville de Bukavu en particulier, ici des élections du 20 décembre 2023, nous sommes au 10e mois de travail, sans prise en charge du gouvernement, alors que ceci impacte la qualité du travail que nous sommes appelés à fournir au peuple qui nous a donné mandat. À cet effet, nous réclamons ce qui suit. 1. La prise en charge des élus conseillers communaux par le gouvernement de la République dans le budget 2025 et dans le budget rectificatif 2024, mais aussi le paiement des 10 mois d'arriéré de nos émoluments, les frais d'installation, les frais de fonctionnement des différents organes délibérants des communes, tels que voulus par les lois de la République portant organisation et fonctionnement des entités territoriales décentralisées. 2. L'organisation des élections des bourgmestres, bourgmestres adjoints et conseillers urbains. Nous vous invitons à la prise de conscience, programmons engager des actions de plus grande envergure si rien n'est fait en toute diligence.
Le gouvernement congolais devra poursuivre avec la vente des sauts minerais de cobalt sur le marché international comme par le passé. Cela malgré l'inscription de ce minerai sur la liste des biens produits par le travail des enfants ou le travail forcé. Décision prise par le département du travail des États-Unis il y a quelques jours. Le gouvernement américain dit avoir alerté la RDC sur ces pratiques pour l'encourager à améliorer les conditions d'exploitation des minerais en général. Emmanuel Lamejo Akabedi nous en parle.
L'ambassadeur des États-Unis en RDC s'est ainsi exprimé dans un entretien avec Radio Okapi, jeudi 24 octobre 2024. Lucie Tamlin indique que cette décision est une sorte d'alerte sur les conditions d'exploitation des minerais en général en RDC. En ce qui concerne particulièrement le cobalt, il s'agit à la fois de l'exploitation artisanale et celle industrielle et beaucoup plus dans la sous-traitance. Le département américain du travail évoque des cas d'utilisation des enfants, même dans le lavage de véhicules et autres services. Et par travail forcé, allusion est faite au travail des heures supplémentaires non payées, des retenues sur salaire et même des salaires impayés. La diplomate américaine précise qu'aucune enquête n'a été menée sur terrain, aucune entreprise n'a été ciblée, mais l'on s'est basé sur un rapport de l'année 2022. Toutefois, les États-Unis d'Amérique disent travailler avec le gouvernement congolais sur cette question à travers les ministères des Mines et celui du Travail. Certaines ONG sont même impliquées pour accompagner le gouvernement congolais en vue d'une amélioration de la situation. C'est là que l'on pourra arriver à retirer le cobalt congolais de la liste des biens produits par les enfants et le travail forcé.
Actualité dans la province du Maïndombé, le mot d'ordre du syndicat national des enseignants du Congo SIECO suspendant la grève des enseignants à travers le pays n'est pas respecté par les enseignants de la majorité des écoles publiques du territoire des Yumbi. Ces derniers poursuivent la grève et réclament notamment le paiement des arriérés de leur salaire, primes de gratuité et frais de fonctionnement, selon leur syndicat intersyndical. Face à cette situation, l'association d'assurance et de sécurité pour le développement de Yumbi, une structure de la société civile locale qui milite pour le développement de ces territoires, se dit préoccupée et appelle les grévistes au calme et à reprendre les cours. Le point avec Irène Bomaluzolo.
À l'exception de quelques écoles, presque tous les établissements scolaires publics du territoire de Yumbi sont toujours fermés jusqu'à ce jour. Les enseignants ont décidé de ne pas reprendre le chemin de l'école pour dispenser les cours, malgré l'appel du SIECO et du gouvernement. Orly Boboto est le président de l'ONG ASDI, Association d'assurance et de sécurité pour le développement de Yumbi. Il demande aux enseignants d'ajouter un peu d'eau dans leur verre pour l'intérêt des enfants.
La situation de la grève reste la même, sauf quelques écoles qui fréquentent les cas du lycée Balembongi, Institut Tambou et autres. Cela est suite à l'appel du président de la Confédération syndicale du Congo Bayumbi, qui reproche au gouvernement et le non-respect des engagements pris à l'égard de ces derniers. Pas d'explication claire de leur prime de gratuité du mois de juillet et août et leurs frais de fonctionnement 2023. Ils n'ont pas touché, voire le salaire du mois d'octobre 2020 pendant qu'il était encore avec Caritas Développement Madakabikoro. C'est pourquoi ils ont décidé d'aller en grève. Nous étant inouïs de développement, on a eu le temps de courtoyer ces derniers, de les rappeler au calme et de reprendre les chemins de l'école, de mettre un peu d'eau dans leurs vins.
Orly Boboto demande au gouvernement congolais de prendre en compte les revendications de ses enseignants. Irène Mboma, Bandundouville, Radio Okapi.
Avant de passer à la page internationale de ce journal, province du Tanganyika, la prison centrale de Manono manque de nourriture et des médicaments. La prison ne reçoit pas des subventions du gouvernement provincial depuis plus d'un mois, a annoncé hier à la presse le directeur intérimaire de cette maison carcérale. Il a précisé que le détenu se nourrisse des mangues. De son côté, la société civile Force Vive de Manono craint que cette situation précaire dans la prison ne favorise des évasions des détenus. Paulin Munanga nous fait le point.
Pour Célestin Yalala, directeur intérimaire de la prison centrale de Manono, une correspondance est déjà adressée au gouvernement provincial du Tanganyika pour subvenir à la prison qui manque de nourriture et de médicaments. Il indique que les 35 détenus mangent des mangues faute de nourriture adéquate. Ces fruits proviennent des manguiers qui se trouvent autour de la prison, précise le directeur intérimaire de cette maison carcérale. Les porte-parole de la société civile Force Vive de Manono craint que cette situation précaire des détenus ne favorise des évasions. Abbé Moïse Kilouba.
Quelqu'un ne peut pas survivre à cause des mangues puisque ce sont des fruits. Hein. Il faudrait qu'il y ait une nourriture consistante. Personne, bien qu'elle est détenue, elle est privée d'une certaine liberté, mais elle doit quand même participer au repas. Le risque, c'est avoir des morts parmi eux à cause de la famine ou soit aussi assister à des évasions.
Pour le gouverneur du Tanganyika, toutes les prisons de la province bénéficient des subventions de son gouvernement. Mais il précise que depuis l'évasion massive de juillet dernier à cette prison, la hauteur de la subvention n'est pas la même après cette évasion. Kalemi Polemunanga, Radio Okapi.
Actualité internationale.
L'État français est accusé des complicités du génocide rwandais de 1994. Ce triste drame dont fut victime la communauté de l'ethnie Tutsi au Rwanda avait fait officiellement au moins 800 morts selon l'ONU. 30 ans plus tard, les procédures judiciaires à l'encontre des responsables politiques et militaires peinent à aboutir. Et cette semaine, deux associations et une vingtaine de rescapés de cette répression sanglante ont saisi le tribunal administratif de Paris, reprochant à l'État français une complicité de fait dans la tragédie. Et puis, la journée mondiale de la poliomyélite est célébrée le 24 octobre. En Afrique, des progrès significatifs ont été réalisés. Les autorités sanitaires ont annoncé que seuls 134 nouveaux cas avaient été signalés en 2024 dans plusieurs pays, dont le Burkina Faso et le Niger. La région de l'Afrique australe a connu une amélioration notable. Aucun cas de poliovirus n'a été enregistré en Afrique du Sud depuis 2022. Cependant, des défis demeurent, en particulier dans les zones de conflit. Selon l'UNICEF, 85% des enfants atteints de polio en 2023 vivaient dans les pays fragiles.
L'invité.
Nous vous l'avions dit dans le sommaire, notre invité dans cette édition du journal, c'est Dr Bourehima Amasambo. Il est représentant de l'Organisation mondiale de la santé en RDC. Avec lui, nous parlons du succès enregistré dans la campagne de vaccination contre le Mpox, dont la première phase a eu lieu dans les provinces du Nord et Sud Kivu. Dr Bourehima Amasambo estime que plus de 90% du nombre des personnes concernées ont été touchées. Il s'entretient ici avec Stanislas Diumi. Suivez.
Docteur Bourehima Amasambo, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes représentant de l'OMS en République démocratique du Congo. Aujourd'hui, nous parlons de la vaccination Mpox. Quelle évaluation faites-vous de cette campagne de vaccination qui a été déjà lancée?
Et comme vous savez, la vaccination a été lancée en début de ce mois, officiellement le 6, mais les campagnes de vaccination ont commencé le 7 dans 3 provinces et 3 autres provinces ont rejoint donc cet effort de vaccination au niveau national. Donc à l'heure où nous parlons, il y a 6 provinces où la vaccination s'effectue. Si on considère les cibles qui ont été définies pour cette campagne, nous pourrons dire que ça a été vraiment un succès. Puisque par rapport aux chiffres, aux cibles plutôt, il y a des campagnes et des provinces qui ont déjà atteint 100% de ce qui était ciblé. C'est notamment le Sankuru, le Sud-Ubangui et la Tchopo. Au point de vue national, sur la cible initiale de micro-planification, c'est plus presque 90% de la cible qui a été déjà vaccinée à cette première dose. Donc nous pouvons dire que la campagne a été un succès.
Et existe-t-il des difficultés que vous avez rencontrées sur terrain par rapport à la campagne de vaccination?
Il y a des difficultés parce que d'abord c'est un nouveau vaccin. Deux, c'est des groupes particuliers que nous cherchons. Comme vous savez, cette première étape a touché pratiquement 3 cibles. C'est ce qu'on appelle les personnes de première ligne, les soignants, ce qu'on appelle les personnes clés, comme on les appelle, c'est les professionnels du sexe, et nous avons les contacts et les contacts des contacts. Tous ces groupes sont des groupes un peu particuliers, mais au début, vous savez, la surveillance a connu un retard de démarrage, ce qui fait que les contacts, c'était pas difficile, mais les contacts des contacts a été difficile. Aussi, vous savez, pour les populations clés, les toucher nécessite des approches qui ne sont pas des approches conventionnelles. Ça a demandé beaucoup de tact pour nos professionnels de la santé d'identifier ce groupe et d'être en mesure de les convaincre de la nécessité de se faire vacciner. Les autres difficultés sont logistiques. Vous savez, nous avons des routes qui sont difficiles. C'est un vaccin qui demande une chaîne de froid. Donc tout ça, il y a eu des difficultés, mais Dieu merci, comme je vous dis, avec les chiffres qu'on a pu obtenir, vous comprenez bien que ces difficultés ont trouvé des solutions.
Et pour le reste des provinces, quel est le calendrier vaccinal prévu?
Oui, au niveau national, comme je dois vous dire, nous avons ce qu'on appelle les provinces hotspots. C'est à peu près 11 provinces. Particulièrement 8 où nous pouvons intervenir. Et la lenteur ou l'autre difficulté que j'allais dire avec les vaccins, c'est les doses qui sont limitées. Et pour le moment, il faut quand même se féliciter qu'au niveau de la région africaine, nous sommes un des premiers à commencer à vacciner. Nous avons reçu des premières doses qui sont de l'ordre de 265 000 doses. Nous espérons de quantités plus importantes. Vous avez certainement appris que le gouvernement du Congo a signé des accords avec le gouvernement du Japon. D'ici la fin de l'année, à peu près 3 millions de doses sont attendues, ce qui pourrait vraiment nous permettre d'élargir les cibles ou les personnes qui bénéficieront de ce vaccin. Et l'autre avantage de ces doses que nous attendons, c'est aussi la possibilité de vacciner des groupes plus jeunes.
Vous êtes représentant de l'OMS en République démocratique du Congo. En peu de mots, qu'est-ce que vous pouvez lancer comme message à la population en ce qui concerne la maîtrise de cette épidémie des Mpox?
C'est vrai, l'Organisation mondiale de la santé travaille avec les gouvernements et les autres partenaires pour asseoir toute une politique de maîtrise de l'épidémie. On a parlé de la vaccination qui est un pilier clé, mais il y a beaucoup d'autres piliers et c'est l'ensemble des piliers qu'on met ensemble pour maîtriser une épidémie. Je vous ai parlé de prendre en charge, parce que s'il y a des patients, il faut les prendre en charge, il faut communiquer, il faut sensibiliser, il faut faire des diagnostics de laboratoire. Donc c'est tout ceci que nous appuyons le gouvernement avec les autres partenaires pour que nous puissions amener toutes ces interventions le plus lointain possible, là où il y a nos populations, puisque véritablement c'est les populations qui ont besoin de cette aide. Nous avons un ensemble d'à peu près 13 piliers, y compris ce que nous appelons la continuité des services de santé. Donc dans un pays, c'est un ensemble, il faut pas s'attaquer à une épidémie, oublier les autres, il faut les traiter de manière concomitante.
Docteur Bourim Amasambo, merci d'avoir répondu à toutes nos questions.
C'est nous qui vous disons merci.
Et c'est la fin de cette édition du journal. Merci de l'avoir suivi.